première. Nua, vos questions au 02 737 37 27.
02 737 37 27, je vous le disais, c'est le numéro où nous contacter. C'est Samia qui vous accueille pour parler de ces fameuses plantes sauvages, ignorées longtemps, éradiquées à grands coups d'herbicides, je vous le disais. Aujourd'hui, elles sont vraiment à la mode. On les voit cuisiner sur les tables ou dans les menus des grands chefs étoilés. On nous dit que sur le plan nutritif, elles ont vraiment une valeur qui est à redécouvrir. Effet de mode ou bien réel intérêt, garde-manger du futur, comme certains le diraient. Pour en parler avec vous, partez téléphone. Il y a l'ethnobotaniste le plus connu peut-être de cette redécouverte des plantes sauvages, c'est François Couplan. Bonjour François Couplan.
Bonjour.
Vous m'entendez bien ?
Oh, fort bien,
voilà.
Merveilleusement.
Vous êtes avec
bien,
nous donc.
C'est bien ce que vous avez dit.
Oh, c'est bien.
Ah ouais.
En tout cas, quand je vous dis que vous êtes le plus connu, c'est vrai que vous n'allez pas trouver ça mal, j'imagine.
Ah oui, non, c'est pas à ça que je faisais allusion d'ailleurs, mais plutôt à votre revalorisation des plantes sauvages,
des plantes sauvages
qui ont été tellement négligées, tellement dévalorisées, tellement méprisées, il y a quand même le temps qu'on ouvre les yeux, quoi. Les yeux, les papilles, tout
ça. Et ben voilà, c'est ce qu'on se propose de faire pendant une demi-heure avec les questions, les réactions des auditeurs qui arrivent déjà, tous azimuts. Et puis je vais vous les soumettre à vous, François Couplan, ainsi qu'à une naturaliste qui est présente avec nous ici, en studio, à Bruxelles, c'est Nicole Collins. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous,
bonjour,
Madame
Nicole.
Collins. Bonjour Nicole, vous dit François Couplan.
Oui,
bonjour François, ça fait tout un temps que nous nous avons rencontré, mais voilà, ce sera sur l'antenne.
Ouais, c'est des grandes retrouvailles grâce à vous là.
Vous avez fait des balades cueillettes ensemble déjà ?
Non, pas vraiment, mais on se connaît.
Vous avez
30 ans peut-être.
Vous avez en tous les cas cette passion commune pour ces fameuses plantes sauvages. François Couplan, vous serez de passage en Belgique prochainement pour des balades découvertes. C'est dans les jours qui viennent. On va donner tous ces détails en fin d'émission. Et puis
tout sera
évidemment...
Des conférences aussi, des choses comme ça, oui.
Des ateliers.
Il faut en parler. Et puis pas seulement en parler, il faut emmener les gens sur le terrain.
Eh bien voilà. Et tout cela sera référencé sur le site de l'émission. François Couplan, avant de passer aux questions des auditeurs, vous aimez à dire, vous, que ces plantes qui poussent spontanément, toutes seules, dans la nature, que généralement on écrase d'un talon, voire qu'on essaye de supprimer, mais finalement, si on y songe, c'est l'aliment de base pour l'être humain.
Bah, écoutez, je vais vous dire les choses d'une façon très simple. L'être humain, il a, allez, on va dire, 2-3 millions d'années, on ne sait pas exactement, mais enfin, il n'est pas tout jeune. Hein. Nous, notre espèce, elle a 200 000 ans, 200-300 000 ans. C'est quand même déjà pas mal. Mais l'agriculture, elle a que 10 000 ans. Donc ça fait que 10 000 ans que l'homme se nourrit d'autre chose, en ce qui concerne l'alimentation végétale, j'entends bien sûr, d'autre chose que de plantes sauvages. Donc ça veut dire que nous, notre organisme, il a évolué avec les plantes sauvages, il est fait pour manger des plantes sauvages, et quand on lui donne des plantes cultivées, surtout de la façon dont elles sont cultivées à l'heure actuelle, donc on se rend compte qu'il y a des carences, tout simplement, on le sait. Donc on va proposer des compléments alimentaires, des choses comme ça, mais c'est pas logique. Je veux dire, la logique, elle est là autour de nous, de partout, parce que des plantes, il y en a énormément, il y en a beaucoup qui sont faciles à ramasser, et c'est là, donc c'est l'aliment du futur peut-être, l'aliment du passé, oui.
À redécouvrir.
C'est plus tellement l'aliment d'aujourd'hui, malheureusement, mais c'est à nous de faire ce travail. Quoi.
Mais oui, et vous avez à dire, d'une manière cocasse même aussi, que ce sont des plantes cadeaux, des plantes pour les paresseux, des plantes gratuites aussi. Mais j'ai envie de vous demander, pourquoi ne sont-elles plus consommées aujourd'hui? Qu'est-ce qui les a fait tomber en désamour comme
mais
ça tout à coup?
Justement parce qu'elles sont gratuites. Si vous voulez, je vous explique en quelques mots le processus qui date de la fin du Moyen-Âge, la société était clivée en deux parties. Vous aviez en haut du panier les nobles qui voulaient se séparer, se différencier par l'habitat, par la langue, par l'habillement et par l'alimentation des classes, de la classe rurale, quoi. Et en ce qui concerne donc les légumes et les fruits, eh bien, c'était à la mode, justement, de manger des haricots verts, de manger
D'accord.
des tomates, des aubergines. Pourquoi ? Parce que ces plantes qui venaient d'un petit peu partout dans le monde, qui avaient été rapportées des expéditions financées par ces nobles, elles sont compliquées à cultiver. Par rapport aux plantes sauvages qui, elles, sont gratuites, sont abondantes, se trouvent partout, qu'il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Donc, si on mangeait des plantes cultivées, d'origine exotique, ce qu'on mange encore à l'heure actuelle, eh bien, ça voulait dire qu'on était riche. C'est un symbole de richesse. Tandis que les plantes sauvages, gratuites, offertes directement par la nature, ça voulait dire qu'on était pauvre. C'était un symbole de statut social inférieur.
Nicole Collins, comme François Coupland, vous aussi, hein, vous avez cet amour, ce savoir-faire aussi concernant les fameuses plantes sauvages. Vous êtes tombée dedans quand vous étiez petite, si on peut dire ça.
Je veux dire que la première plante qui m'a été présentée, c'était une pâquerette. Et c'est une personne qui a été appelée ma fée dans mon milieu.
Ma fée, c'est ça, c'est comme ça que vous l'appelez.
Qui m'a dit, cette plante, elle a ce que tu peux trouver dans le lait. Maman avait très peu de lait. Et j'avais des carences importantes. Et ça m'a interpellée toute petite parce qu'autour de moi, j'en ai parlé. Et personne ne pouvait me donner de solution. C'était plutôt des moqueries.
Oui.
Et puis, j'ai eu connaissance très jeune, c'est vers l'âge de 18 ans, d'un ouvrage qui avait été diffusé pendant la guerre, après, à la fin de la guerre, vers 1917. Et c'était deux hommes. Il y a beaucoup de grands hommes, donc, sur Terre. Braque et Rumer. Et cet ouvrage était fortement abîmé. Il m'a été donné, à un moment donné, mais j'ai dû le rendre trop vite.
On y découvrait les plantes sauvages?
Oui, il y avait des plantes. Et par après, ça m'a interpellée parce que ces plantes... J'ai pris des notes. Je me souviens avoir pris des notes à cet âge-là. Et puis, quand j'ai goûté la brunelle, j'ai trouvé que c'était bien mauvais.
Mmh. Et pourtant, ça vous apportait plein de choses.
Il n'était pas dit que ça ne se mangeait pas à une telle période. Je me suis dit, les gens devaient avoir très faim pour manger ces plantes. Je me suis par après posé la question, est-ce que ça ne les a pas tout à fait dégoûtés?
Mais on pourrait poser la question à François Coupland aussi.
C'était aussi bien les gopandes que l'ortie, mais il n'y avait pas de saison, il n'y avait pas de gestes qui étaient ces rappels de tout ce que savaient les anciens. J'ai beaucoup suivi des personnes âgées dans leur jardin et ça m'a démontré qu'ils possédaient là des savoirs qui devaient être aussi transmissibles par rapport aux végétaux. Et qui n'était plus depuis longtemps. Avec les guerres, beaucoup d'hommes sont partis.
Mais qu'on redécouvre, hein,
ont dû faire
mourir
la marmite.
Et qu'on redécouvre
et
tout doucement.
Et se retrouver au travail
maintenant,
extérieur plus nombreux.
François Coupland.
On pourrait accélérer un peu la cadence parce qu'on n'est pas très en forme et on pourrait être quand même infiniment plus en s'ouvrant un petit peu tout simplement à ce qui existe autour de nous.
Voilà, quoi. C'est ça.
Peut-être pas en ville. Encore qu'en ville, la ville, c'est.
Mais il y a des plantes sauvages et des mauvaises herbes en ville, hein.
Pardon.
Il y a des plantes sauvages dans les villes aussi, hein. Oui, elles sont peut-être plus polluées.
Mais on va faire des sorties à Bruxelles justement, mais carrément en ville pour montrer aux gens tout ce qui existe. Je fais régulièrement des sorties au bois de Boulogne. Cela dit, il faut quand même faire attention à une chose quand on ramasse les plantes sauvages, il ne faut pas aller les cueillir, les récolter là où c'est pollué.
Bien sûr.
Ça, c'est quand même une chose qui est très importante. Cela dit, on se rend bien compte, on voit bien avec les abeilles par exemple, que souvent les campagnes sont encore plus polluées que les villes.
C'est vrai.
N'est-ce pas ? C'est quand même assez embêtant. Mais donc, je veux dire, ça c'est une chose absolument fondamentale qu'il faut bien dire aux gens. On ne ramasse pas n'importe où. D'autre part, on ne ramasse pas n'importe quoi. Il ne faut pas s'intoxiquer, il ne faut pas... je veux dire, c'est pas parce que ça pousse tout seul quelque part que c'est forcément bon. Hein, Nicole citait la brunelle tout à l'heure. Bon, la brunelle, c'est comestible, ça n'a pas de problème.
Mais c'est pas bon.
Très très bon. Après, elle a parlé de l'égopode. L'égopode, on le goûte comme ça, une vieille feuille d'égopode, comme ça, bouh, c'est fort. Mais bien travaillé, ou bien quand on ramasse les toutes jeunes pousses en salade. Donc effectivement, comme le disait Nicole tout à l'heure, il faut savoir, il y a des moments, il y a des saisons, il y a des périodes, il y a des lieux, il y a des façons de faire. Et puis on découvre que même des plantes qui ont l'air d'être finalement pas forcément très bonnes, eh ben, elles peuvent être absolument géniales. J'ai une histoire qui m'est arrivée avec Marc Vera, à qui j'ai appris à utiliser les plantes quand on écrivait un autre bouquin ensemble. Je lui apportais des plantes un peu, justement, qui sentaient un peu pas bon. Puis une fois, je lui apporte une plante qui sentait la serpillière mouillée, les pierres des bois. Il y en a partout. On va en trouver, là, autour de... En Belgique, il y en a plein dans n'importe quel bois. Ça sent la serpillière mouillée quand on froisse la feuille. Donc, je lui fais sentir ça. Et puis... Il la tripote, et tout d'un coup, il me dit, waouh, ça c'est du cèpe. Et effectivement, là, j'ai pris conscience de ça grâce à lui, quoi. Quand certaines plantes, quand on les froisse, quand on les travaille d'une certaine façon, eh bien, on découvre encore tout à fait autre chose, oui. tout un autre monde. Donc voilà, quand on parle de plantes sauvages, c'est infiniment plus varié que ce que nous que nous proposent par exemple les étals des marchands, les supermarchés ou tout ça, avec les légumes cultivés. Moi, en Europe, j'en ai recensé 1600 espèces différentes à mettre en regard des quoi 30 légumes et fruits qu'on nous propose.
Et c'est vrai qu'on consomme finalement très peu hein, de tout ce que la nature nous propose. Alors, je vous le disais, hein, dans cette émission, ce sont aussi les auditeurs qui font le fil de ce que nous abordons. Eh bien, je pense que nous avons en ligne André, qui appelle de Bruxelles. Je ne sais pas si c'est là qu'il cueille ses plantes sauvages. André, est-ce que vous êtes là ?
Oui, c'est ça, oui. D'ailleurs, ce que j'entendais, là, ce sont deux personnes que je connais depuis longtemps. Enfin, Nicole Collins, je me souviens, j'ai eu un contact il y a très longtemps. Donc, c'est deux personnes-là qui m'ont fait découvrir les plantes sauvages à cuisiner. C'est déjà ça, quoi.
Et qu'est-ce que vous utilisez comme plantes sauvages, André, et à quel but ?
Oui, disons, ce que j'utilise souvent, c'est les orties jeunes, pas les orties avancées quand il y a des fleurs qui sont les plus piquantes, mais les orties jeunes pour faire du potage ou disons aussi pour les cuire, un peu comme les épinards, quoi.
Et avec quel objectif ? C'est dans un but de santé ou de découverte de la nature ?
C'est surtout parce que j'ai entendu que ça contient beaucoup de protéines. C'est effectivement pour la santé, donc parce que c'est une plante. Bon, pour moi, je trouve que ça n'a pas un goût extraordinaire, mais enfin, c'est bon à consommer.
Ça n'a pas un goût extraordinaire, l'ortie ? Oh, c'est
plutôt en potage, quoi.
Ah non, on fait plein de trucs. Oui, je vous donne une petite recette comme ça, vite fait, toute simple, vous l'essayerez.
Allez-y, François Couplan.
Ok ? Un dessert, en dessert. Vous allez voir, l'ortie en dessert. Vous prenez une pomme, vous la pelez et vous enlevez le trognon au milieu, vous la coupez en tranches, vous allez poêler la moitié des tranches, et puis vous allez préparer un caramel. Dans ce caramel, vous allez mettre des orties ciselées très très fin et un petit peu de vinaigre dans le caramel. Vous remuez très bien, vous faites une sorte de pâte de caramel, et puis vous allez monter dans un ramequin une tranche de pomme crue, caramel d'ortie, une tranche de pomme cuite, caramel d'ortie, une tranche de pomme crue, caramel d'ortie, etc. Et puis dans le fond et par-dessus, vous allez mettre des noisettes grillées et concassées. D'accord ? C'est simple, ça se fait vite. Vous servez ça. Ben, vous verrez si les gens ils vont pas trouver que ça a un goût extraordinaire.
Ça a l'air délicieux, en tous les cas, présenté comme ça.
Ah ouais,
ça c'est évident. Convaincu, André, que peut-être
ça peut être bon
aussi.
C'est vrai que bon, moi je fais des choses assez simples, donc c'est peut-être aussi. Mais je sais que pour moi, au niveau ce que j'aime bien aussi pour le goût, c'est le quinopote, quoi. Là c'est clair. Là j'ai entendu parler d'une recette d'omelette et ça marche très bien.
Qu'est-ce que c'est le quinopote ?
Donc.
Oui, dites-nous.
Qui répond.
François Couplan, dites-nous.
C'est moi. Quinopote, c'est une mauvaise herbe. C'est une mauvaise herbe, il y en a dans tous les jardins. Je mets des guillemets à mauvaise herbe.
Bien sûr, oui.
Mais je veux dire, n'importe quelle personne qui a un jardin, n'importe quelle terre remuée, d'ailleurs vous remuez n'importe quel terrain, n'importe où, vous avez du quinopote qui va sortir. C'est une plante qui ressemble, on l'appelle épinard sauvage. Hein, c'est des feuilles un petit peu sinuées, comme pas de doigt, c'est ce que signifie son nom. Et ça vient tout d'un coup, pas très très tôt, mais vers le mois de juin, ça couvre tout. Il y en a partout. Et on cueille ça. Et ça a une saveur très très douce, quoi. C'est hyper commun, il y en a partout.
En tous les cas, merci hein, André pour votre intervention. Vous aviez une question particulière ?
En omelette. Hein.
En omelette.
Oui.
Est-ce que vous aviez une question particulière ou c'était juste un témoignage
non,
comme
pas
ça ?
Pas spécialement, je vais écouter s'il y a des choses qui sortent. Mais voilà.
D'accord, très bien. Merci bon, en tout cas pour ce témoignage, André. Mais ce qui ressort hein, de pas mal de questions qui nous arrivent, certains demandent comment cuisiner la bourrache, d'autres reviennent aussi sur l'ortie qu'évoquait André. Ce qui ressort de tout ça quand même, c'est que, et je crois que Nicole le disait tout à l'heure, c'est pas si simple à préparer ces plantes sauvages. Est-ce qu'il faut, comme vous l'avez fait, François Couplan, travailler avec des grands chefs étoilés ou est-ce que c'est à la portée de tout le monde ?
Non, c'est fait pour tout le monde, absolument pour tout le monde. Il y a place à tout ce qu'on veut, depuis la cuisine la plus simple, c'est-à-dire se mettre dans un pré et carrément brouter directement sans intermédiaire, jusqu'à l'élaboration la plus sophistiquée. De la cuisine moléculaire en faisant de la sphérification et des machins pas possibles et en utilisant de l'azote liquide qui est ça évidemment à la portée de chefs techniciens on va dire. Mais il y a entre les deux, il y a toute l'attitude, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour les enfants. Les enfants, moi, quand mes enfants étaient petits, tout à l'heure, Nicole, elle parlait de la pâquerette. Mais attendez, mes gamins, quand ils étaient tout petits, mais ils sortaient dans le jardin, ils ramassaient les pâquerettes par brassées et ils broutaient ça. Le plantain, pareil, tout ça. Ils savaient à peine marcher que déjà ils mangeaient du plantain. Mais les enfants, ils adorent, quoi, je veux dire, en direct, sans sophistication.
Ah ben justement, à propos d'enfants, c'est via le www.rtbf.be que nous parvient cette réflexion. Voilà, si je la retrouve, c'est Jacqueline, et je trouve qu'il n'est pas sans danger de pousser, comme vous le faites, à ces cueillettes sauvages, quand on sait qu'on doit aussi inculquer aux enfants de ne pas cueillir les baies toxiques des jardins.
Ah ben alors là, ça c'est une excellente chose. Alors ça, quelle bonne question, ça c'est la meilleure question là, parce que je le répète, ce n'est pas parce que ça pousse tout seul que c'est forcément bon.
D'accord.
Mais je dirais aussi, ce n'est pas parce que ça pousse tout seul qu'on va forcément s'empoisonner. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Écoutez, la personne qui pose cette question, je suppose qu'elle doit avoir son permis de conduire, en tout cas elle sait lire et écrire. Eh bien je vous assure qu'elle a passé plus de temps et que c'était beaucoup plus difficile et pénible pour elle d'apprendre à conduire et à lire et à écrire que d'apprendre à un enfant à faire la différence entre ce qui est toxique et ce qui ne l'est pas. C'est d'une simplicité enfantine quand on prend les choses au départ et qu'on leur explique clairement les choses.
Comment ça ?
Je parlais de l'égopode tout à l'heure. L'égopode, quand je vois, c'est une plante qui appartient à la même famille que la ciguë. D'accord ?
Uh-huh.
Bon, et on me dit,
ça peut être dangereux.
Mais attends, c'est pas de la ciguë. Non, tiens, regarde. Là, les feuilles, elles sont découpées, mais pas très finement découpées. Tiens, touche cette partie, là, la queue de la feuille qu'on appelle le pétiole. Tu vois, ah ouais, tiens, je sens, c'est un peu, ça fait comme un triangle, ça roule entre les doigts.
Il faut apprendre à les connaître, quoi, tout simplement.
Ah bah, ça, je n'irai jamais préconiser à qui que ce soit d'aller dehors, n'importe où, et de ramasser la première plante qui lui tombe sous les yeux ou sous
bien
les
sûr.
Doigts, bien
ouais,
sûr que
ouais,
non.
Ouais.
Dire, on apprend. C'est bien pour ça qu'on est là et que Nicole comme moi, on donne des stages, quoi.
Eh bien, Nicole, précisément, quels sont les outils, peut-être, que vous recommandez, les manières de s'initier à ceux qui veulent voilà, faire leur premier pas dans la découverte, la consommation des plantes sauvages ? C'est de prendre quoi ? Un herbier et de se renseigner ?
Bien sûr, au départ, je pense qu'il faut approfondir la connaissance des végétaux avant de se lancer sur le terrain, mais il faut aussi essayer de retrouver ce que faisaient nos aïeux. En ce qui concerne, puisqu'on ne parlait plus des plantes sauvages quand j'étais enfant,
ouais,
à part l'ortie
récente,
et le pissenlit, c'est se servir du temps, de la saison, le temps qu'il fait, est-ce qu'il fait sec. Pourquoi est-ce qu'on va se diriger dans une prairie ou dans un chemin ou au fond du jardin plutôt que en plein soleil? Parce que les végétaux ont des fibres qui sont soit plus nutritives, soit beaucoup moins, qui lestent fortement les intestins.
Ah oui,
ils vont s'avérer aussi moins agréables.
C'est ça, il ne faut pas cueillir la même plante n'importe où. Ça
voilà,
peut être
exactement.
Différent aussi.
Et c'est pour ça, quand j'étais enfant, je suivais pas mal de jardiniers et de jardinières. Je poussais un peu les portes partout parce que ces phrases qu'ils disaient, le cochon, on le met à la casserole un an après quand on lui donne des vieilles plantes. Il tiendra peu de temps.
D'accord.
Il tiendra peu de temps.
Ça rejoint ce que disait François Couplan, consommer les plantes sauvages, oui, mais pas n'importe lesquelles et pas n'importe comment.
En fait, il faut des végétaux très tendres pour les intestins. Les intestins doivent vivre très longtemps.
Ça rebondit
et à l'heure
sur ce
actuelle,
que disait André,
on vend des
pissenlits
jeunes cultivés qui ont parfois 2-3 mois de chez le frigo.
Ah bah voilà, bah justement,
et des
à propos
verdures
de...
qui sont extrêmement dangereuses à l'organisme.
À propos de légumes cultivés, ici par mail, une question qui nous revient, qui interpelle nos interlocuteurs, voilà, nos spécialistes, sur leur avis, François Couplan peut-être, à recultiver les plantes sauvages. Voilà, pensez-vous qu'il faille cultiver des plantes sauvages ou bien ne vous intéresse-t-elle qu'à l'état spontané, entre guillemets ? C'est Robert qui demande ça.
Ils posent des bonnes questions aux auditeurs.
Mais ils sont malins, hein.
Ah ouais, c'est ça. Parce que, mais moi, je vais lui répondre. Mais attendez, si une plante sauvage est cultivée, est-ce que c'est encore une plante sauvage ?
Ben, c'est sans doute ça qu'il veut dire.
Ah ! Eh ben oui, mais pourtant, je vais vous faire encore une réponse de Normand, si je puis dire, bien que ne l'étant pas. Peut-être que non. Ça dépend. Ça dépend. Vous avez des plantes. Prenez du plantain, par exemple. Si vous cultivez du plantain lancéolé, ça va pas différer. Ça va être la même chose, qu'il soit à l'état sauvage ou qu'il soit cultivé. Mmh. Par contre, d'autres plantes, et en particulier les plantes aromatiques, si vous les cultivez, là, vous allez perdre énormément. Voilà. Donc ça, c'est une chose. En ce qui concerne la qualité, si vous voulez, de la plante. Mais, pour moi, ce qui est, je dirais, encore plus important, c'est que quand on va ramasser les plantes sauvages, là où elles poussent dans la nature, il se passe quelque chose dans sa tête. Mmh. On se rend compte que c'est la nature qui nous offre directement ce qui va nous permettre de nous nourrir. J'ai passé énormément de temps en Crète, bien avant qu'on parle du régime crétois. Je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le véritable régime crétois, en fait, c'est pas l'huile d'olive et le vin rouge, ni les escargots, c'est avant tout le fait de se nourrir en grande partie, sinon exclusivement du point de vue de l'alimentation végétale, de plantes sauvages pendant toute une grande partie de l'année. Et c'est ce que font les Crétois. Et quand on leur demande aux Crétois, mais pourquoi est-ce que vous mangez des plantes sauvages ? La première réponse qu'ils vous disent, c'est, mais c'est toujours, hein, vraiment c'est systématique, c'est parce que c'est bon pour la santé. Donc, je veux dire, il y a une conscience très forte de ce qu'apportent les plantes sauvages. Donc ça, c'est une chose. Mais quand on va dans leur potager, on se rend compte qu'il n'y a rien dans leur potager. Il y a des artichauts, des fèves, quelques arbres fruitiers, des citronniers, des orangers. Bon, mais vraiment pas grand-chose. Et quand on leur demande, mais attendez, mais pourquoi est-ce que vous ne cultivez pas, sous-entendu comme des gens normaux, quoi, comme nous, on fait en Occident, eh bien, ils vous disent, mais attendez, mais pourquoi est-ce qu'on irait cultiver ? Toutes ces plantes qui sont là dans la nature, c'est Dieu qui nous les donne. Alors, on croit en Dieu, on croit pas en Dieu, on fait comme on veut. Toujours est-il que c'est la nature qui nous les offre, là, toutes ces plantes. Elles sont là pour simplement, comment dire, à notre disposition. Et quand on a appris à accepter ces cadeaux de la nature, on se met à avoir une vision des choses totalement différente. Depuis l'agriculture, on pense qu'on doit se battre dans la vie pour survivre et pour produire de quoi se nourrir, de quoi se vêtir et tout ce genre de choses. Nos ancêtres bien plus anciens qui étaient cueilleurs, eh bien, eux n'avaient pas du tout la même vision des choses. Ils allaient aux endroits où il y avait de la nourriture pour eux et c'est la nature qui leur donnait directement ce qui leur permettait de se nourrir. Il ne s'agit plus de faire ça à l'heure actuelle, qu'on est d'accord, qu'on ne fasse surtout pas dire ce que je ne veux pas dire.
Mais c'est la relation globale à la nature quand même qui est différente selon qu'on l'estime plus ou moins ami.
Voilà. On peut, et ça c'est, je dirais, le but de ma démarche, on peut vivre en étant moderne, dans un monde actuel, et même en étant plus que moderne, je dirais, avec un esprit de cueilleur, c'est-à-dire en remerciant la nature, en remerciant qui on veut de tout ce qui nous est donné, plutôt qu'en cherchant toujours à vouloir contrôler, en l'occurrence, sa source de nourriture, en voulant contrôler ceci et cela. Ce que je veux dire, c'est que c'est une philosophie de vie qui se développe grâce au fait d'aller cueillir ne serait-ce que de temps en temps quelques petites pousses d'ortie, quelques pâquerettes, quelques tiges d'égopodes dans la nature.
Oui,
vous voyez,
oui, oui.
Il ne s'agit pas forcément d'en faire une fin en soi, il s'agit de développer une vision du monde différente qui est absolument nécessaire à l'heure actuelle si l'homme, en tant qu'humanité, veut continuer à vivre. Parce qu'on en est arrivé, nous, à l'heure actuelle, à une crise qui est extrêmement grave et qui est, là, on est allé jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on a des besoins toujours croissants dans un système fermé, un système qui est fini. Et on ne peut pas continuer comme ça, ça n'est pas possible.
Il faut se raccommoder avec la nature.
Pendant longtemps, et ce qu'il faut, c'est changer de point de vue. Mm-hmm. Et c'est la proposition que nous font ces plantes sauvages.
Oui, François Couplan, il nous reste quelques 5 minutes. Hein. Je voudrais prendre Christophe aussi au téléphone. Christophe, bonjour.
Bonjour.
Voilà, producteur visiblement de plantes sauvages. Vous collaborez, m'a-t-on dit, avec des restaurants. Et vous avez le sentiment, vous, qu'il y a vraiment une envie comme ça de revenir quoi, à se raccommoder avec la nature. Vous pensez que c'est ça que cherchent les gens quand ils consomment des plantes sauvages ?
Voilà, je pense pas que ce soit spécialement un effet de mode, mais plutôt comment les gens veulent revenir à une certaine source naturelle et saine de nourriture. Producteur, j'aime pas vraiment le mot producteur parce que d'après ce que je peux entendre, ça peut sembler un peu péjoratif dans le sens où on ne laisse pas libre cours à la nature. Mais justement, c'est plutôt le sens de réserver certaines parcelles de terre à des plantes qui auraient tendance à disparaître à cause justement de tout ce qui est pesticides, etc., de tout ce qui est herbicides. Donc réserver des lopins de terre où effectivement, j'ai dû ressemer certaines plantes qu'on ne trouve plus, en tout cas dans ma région.
Et qui ensuite se ressèment toutes seules. Vous ne les cultivez pas.
Il y a aucune. Je laisse votre interlocuteur dit. Dieu laisse faire son œuvre. J'ai juste aidé la nature à reprendre un peu ses droits sur certaines parcelles de terre. Et grâce à ça, je permets à certains chefs cuistots, de travailler ces herbes et de pouvoir faire découvrir aux gens à travers les plats qu'ils travaillent qu'effectivement la nature est riche et que c'est un peu dommage de la piétiner ou d'essayer d'avoir la main mise dessus.
Christophe, et est-ce que c'est seulement dans les restaurants branchés, entre guillemets, ou c'est vraiment quelque chose, un mouvement de fond qui se répand auprès de tout le monde finalement ?
Alors, pour l'instant, non, certainement pas. Ce sont des restos qui ont une certaine, comment je vais dire, réputation, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est un peu dommage, parce que pour l'instant, et en tout cas, il n'y a que ces chefs-là qui ont, qui osent proposer ce genre de plat à leur clientèle, et qui osent faire des, comment je vais dire, des créations à base de ces plantes-là, alors que au départ, c'est censé être comment accessible à tous et non pas à une certaine élite, je vais dire, ou à une certaine population qui peut se permettre de d'aller dans ce genre d'établissement.
Ah oui, bien entendu. C'est un peu dommage. Oui, oui. Et c'est le principe hein, de ces balades, de ces initiations à la cueillette en nature, la cueillette sauvage que vous proposez, François Coublanc, que Nicole Collins propose aussi.
On pourrait proposer aux gens qui sont pris dans les bouchons, par oui. exemple. D'en profiter pour regarder les plantes au bord de l'autoroute. Vous voyez, peut-être pas de cueillir, hein. Peut-être pas
là,
cueillir, mais faire de la
pas.
Botanique depuis leur voiture, ça fait passer le temps de façon utile et agréable.
En tous les cas, voilà, cette manière résolument positive d'aborder les choses qui est la vôtre. Il me reste 20 secondes, là, maintenant, pour signaler que toutes les infos concernant ces balades découvertes des plantes sauvages que vous proposez dans une grosse semaine maintenant du côté de Tournai et puis Bruxelles en Belgique, tout cela est référencé sur le site de Nua, sur les pages de la première. Il y a un renvoi vers votre site internet à vous aussi, François Coublanc. Et puis Nicole, vous aussi, vous proposez des initiatives de ce genre. Tout cela est référencé sur les pages de la RTBF. François Coublanc, grand merci d'être venu participer à tout ceci avec nous. Et puis on vous retrouve sur les chemins des plantes sauvages dans quelques jours à Bruxelles et du côté de Tournai. Merci.
C'est un grand plaisir.
Et Nua se termine ici. Bel après-midi à vous. Oui.